bonne parole de Dieu et lire ensemble un verset très court qu'on trouve dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 2, c'est le verset 4, un seul verset très court mais tellement expressif. Le Cantique des Cantiques, le chapitre 2 et le verset 4. Vous savez que le livre du Cantique des Cantiques relate d'une façon certes imagée, poétique, mais avec une portée spirituelle extraordinaire, une histoire d'amour admirable et sublime qui unit la bien-aimée, qui s'appelle aussi la Sulamite, et son bien-aimé. Et vous le savez, au plan symbolique, on peut parler de l'amour sublime qui doit unir l'Église de Jésus-Christ à son Sauveur, à son Seigneur. Et donc, je voudrais qu'on puisse développer quelques pensées dans ce domaine. Voici ce que dit donc cette Sulamite, chapitre 2, verset 4. Il me fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Voilà un témoignage très fort de cette femme qui nous révèle ce qu'elle est en train d'expérimenter, de vivre. Son bien-aimé déploie, comme on déploie un étendard, un drapeau, déploie sur elle la bannière de son amour. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, rappeler un élément absolument fondamental, c'est qu'il n'y a pas de vie chrétienne authentique si elle n'est pas motivée, motorisée, dynamisée et nourrie par une relation d'amour entre Dieu et l'enfant de Dieu, entre le Sauveur et le racheté, entre le Seigneur et son disciple. Ta vie chrétienne trouvera un plein épanouissement au fil du développement de l'amour que tu vas vivre avec Jésus. La Sulamite, en fait, quelquefois, on rencontre des lecteurs de la Bible qui confondent avec la Sunamite. En fait, la Sunamite, c'était l'habitante de Sunem, au temps d'Élisée le prophète. Ici, la Sulamite, son nom n'est pas en rapport avec un lieu d'habitation, c'est un nom propre, Sulamite, qui provient du mot shalom en hébreu. Et donc, il y a déjà dans le nom qu'elle porte un message formidable. Shalom, qui bien sûr signifie paix, mais bien plus que cela, shalom est un mot hébreu qui parle de bonheur, de plénitude, d'épanouissement. Un mot qui parle d'une dimension de bonheur absolument complet. Quand on vit le shalom de Dieu, on a un contentement parfait. Notre âme est heureuse. Il n'y a plus aucune frustration. Il n'y a plus aucun domaine où je me sentirais en manque. Le shalom de Dieu est un mot qui nous exprime à quel point Dieu, notre Père, veut combler ses enfants. Et quelqu'un peut dire amen. Amen. C'est là la mesure dans laquelle Dieu veut te bénir. Bénir son Église. Elle porte un nom qui est un témoignage. Et je reviendrai tout à l'heure dans la prédication, mais déjà, je suis heureux de dire que dans ce monde qui s'effondre, qui part en déliquescence, dans cette société désespérée comme jamais, il faut que l'Église rayonne et que le témoignage de chaque croyant soit tellement persuasif. Il faut que, comme la Sulamite, nous puissions dire « Quelqu'un m'a comblé. J'ai découvert celui qui a répondu à tous mes besoins. Venez et à votre tour, rencontrez-le. Je vais y revenir tout à l'heure. » La bannière que Christ déploie sur son Église, c'est la bannière de l'amour, de son amour. C'est un élément très très important, surtout lorsqu'on est en temps de guerre. Une armée sera toujours rassurée et motivée tant que sa bannière est debout et qu'elle flotte au vent à la vue de tous. Il y a une cible que toute armée va viser, c'est la bannière. Si l'ennemi réussit à faire choir la bannière, il a affaibli le moral des troupes. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que notre adversaire à tous va essayer, par toutes sortes de stratagèmes, de faire tomber, de faire choir la bannière que Christ pourtant veut déployer dans ta vie. Notre amour pour Jésus, sa ferveur, sa fraîcheur, son authenticité, son intensité vont rencontrer des ennemis. Il y aura des adversaires à la qualité de l'amour qui te relie au Seigneur Jésus. Regardez cette église à qui Jésus va faire plusieurs éloges. Je connais tes œuvres, je connais plusieurs de tes qualités non négligeables, mais ce que j'ai contre toi, écrira-t-il à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, la bannière est tombée. Et elle ne tombera jamais par hasard, mais elle tombera parce qu'on aura permis à certains facteurs ennemis de l'atteindre et de la faire tomber à terre. Est-ce que dans ta vie, la bannière flotte? Amen. Il y en a deux ou trois déjà. Est-ce que ta bannière est debout? Est-ce que tu es capable de dire en toute vérité, malgré ce que je traverse, j'aime Jésus. Malgré ce que j'endure, malgré les vents contraires, les circonstances indésirables, inconfortables, il y a une chose que personne n'arrivera à ébranler, c'est que j'aime mon Dieu. Je l'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, et mon être entier tressaille d'amour à son égard. Relisons ce que Jésus va adresser à l'église de Laodicée, dont il va dénoncer la tiédeur. Voilà un autre ennemi de l'intensité de l'amour qui doit nous unir à Christ. Parce que tu es tiède. Mais comment cette église est-elle arrivée à un état de tiédeur? La suite nous explique. C'est que, imperceptiblement, insensiblement, ces croyants, se sont laissés peu à peu dériver vers des illusions, vers des pensées illusoires. Je suis riche, je me suis enrichi. Oh là là, quand on commence à parler ce vocabulaire-là, notre bannière est en danger. Je me suis enrichi. Voilà une église qui a oublié que c'est par la grâce et seulement par la grâce de Dieu qu'elle est sauvée qu'elle est héritière de la vie éternelle. Je ne veux rien laisser me faire oublier que c'est par grâce que je suis devenu enfant de Dieu. Et que le Saint-Esprit ce matin ravive en toi la conscience de l'immensité de la grâce dont tu es le bénéficiaire. Amen. Si nous sommes là ce matin, c'est encore une grâce de Dieu. C'est sa grâce qui nous a gardés. C'est elle qui a pourvu à nos besoins, pas seulement matériels. Mais vous savez, chaque fois que nous étions en déficience, en manque, chaque fois que la force a manqué, chaque fois que nous nous sommes sentis dans une situation de faiblesse, sa grâce suffisante a pallié à nos faiblesses. Résultat, nous sommes là ce matin. Amen. Plaise à Dieu que dans ton cœur, dans mon cœur, il y ait ces tressaillements de reconnaissance, disant au Seigneur, mais qui suis-je, mon Dieu, pour que tu aies posé sur moi un regard favorable, bienveillant, et pour que tu aies fait de moi ton enfant, l'héritier de Dieu et le co-héritier de Christ. Voilà un autre ennemi, oublier la grâce de Dieu. Je me souviens, j'avais 18 ans, c'était avant-hier, hein, un vendredi soir, un prédicateur est invité à Lyon par mon pasteur, et ce prédicateur, c'était le frère L'Amitié, que quelques-uns peut-être connaissent de souvenirs de leur jeunesse. Et cet homme de Dieu, ce docteur, cet enseignant réputé, en venant au pupitre, a commencé son propos en disant, vous avez devant vous un pécheur sauvé par grâce. Rien ne doit me faire oublier cet élément essentiel. Non, 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 je ne me suis pas enrichi, mais il m'a enrichi de sa grâce. Comme le dit le vieux cœur, j'étais pauvre, mais quelqu'un m'a enrichi. C'est Jésus. Et si je puis jouir d'une certaine richesse, de bonheur, de joie, d'espérance, de force, et même pécuniairement, tout cela est le résultat glorieux de sa grâce. C'est par grâce. Gloire à Dieu, et sa grâce n'a pas cessé de couler, et je crois que ce matin, elle coule encore. Et elle veut couler en particulier dans ta vie, dans ta santé, pour te guérir, dans une crise familiale, pour apporter une solution divine et merveilleuse. Voilà, je me suis enrichi, quel danger. Les ennemis de notre bannière sont nombreux. La routine. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de la Pentecôte, oui ou non ? Oui ou non ? Il y a quand même cette dimension glorieuse dans laquelle le Saint-Esprit veut conduire l'Église avec cette manifestation de dons spirituels, de foi fervente, de joie débordante. Eh bien, l'ennemi de tout cela peut être la routine, l'accoutumance, la religiosité. On pourrait prolonger la liste malheureusement trop longue de tout ce qui est comme un ennemi à notre bannière. Mais nous prions pour que la bannière reste debout et que ta vie, quotidiennement, soit au bénéfice de cet étendard que Christ veut déployer et déploie sur toi. C'est l'étendard de son amour. Alléluia. La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Mais quand la Sulamite parle d'amour, elle connaît l'amour du bien-aimé. Elle sait de quoi elle parle. Elle sait qu'elle est en train de parler d'un amour d'une qualité incomparable. Parce que l'amour véritable, la Bible est très claire à ce sujet. L'amour est de Dieu. Amen. Car Dieu est amour. L'amour qui va combler ta vie, mon bien-aimé, c'est l'amour qui prend sa source en la personne de Dieu. L'amour est de Dieu. Ne le cherche pas ailleurs. Cherche pas l'amour ailleurs. Tu vas être déçu. Tu vas souffrir. Tu vas être honteux. Tu vas perdre du temps. L'amour qui va combler ta vie n'a qu'une seule source. C'est la personne de ce Dieu merveilleux que Christ nous a révélé. Cet amour de Dieu, il est éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Vous vous rendez compte? Avant que je naisse, Dieu m'aimait déjà. Donc Dieu ne s'est pas mis à m'aimer pour les bonnes œuvres que j'aurais faites, non. Mais Dieu m'aime d'un amour éternel. Et Dieu t'aime d'un amour éternel. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu as fait. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu es, mais Dieu t'aime d'un amour absolu. C'est un fait. C'est factuel. Il t'aime. Personne ne peut en douter. Et ce matin, que personne parmi nous ne doute de cette glorieuse réalité, Dieu t'aime. Tu es concerné par l'amour de Dieu. Et cet étendard, on veut le brandir bien haut. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Le Seigneur élèvera une bannière pour toutes les nations. » Dans le même prophète, au chapitre 49, verset 22, il est dit « Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. » Plus que jamais, l'humanité a besoin de voir flotter bien haut la bannière du message de l'Évangile par le moyen duquel Dieu est en train de dire aux hommes de tous les continents l'amour qu'il éprouve pour chacun et le salut qu'il propose en Jésus-Christ. La bannière de l'amour de Christ qui flotte au regard de toutes les nations, de tous les peuples, que Dieu soit béni. On parle ici de l'amour de Dieu que je qualifierais de l'amour de compassion. L'amour de compassion. Le plus célèbre verset de la Bible affirme « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ça, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité, pour le monde entier. C'est l'amour de compassion. Personne, même le pire des pécheurs, ne peut penser être disqualifié, mis de côté, de l'amour de Dieu. C'est l'amour de compassion. Je ne vous connais pas suffisamment, et tant mieux d'un côté, parce que peut-être y a-t-il quelqu'un parmi nous, je ne connais pas vos vies personnelles, peut-être quelqu'un parmi nous rencontre-t-il ce problème intérieur devant l'image à tel point négative de ta vie, de ta personne, tu as du mal à accepter que l'amour de Dieu te concerne. Eh bien, je suis heureux de t'affirmer ce matin que l'amour de Dieu est un amour universel qui ne fait exception de personne, comme dit la Bible, c'est un amour de compassion. Les compassions de Dieu, son émotion, ses larmes. Est-ce que vous accepterez que je parle de ses angoisses quand il voit le cheminement des uns, des autres? Parce que quand on aime, on se soucie, on s'inquiète de la personne qu'on aime. Quand de son trône, Dieu oriente son regard vers l'humanité, mais pas comme une masse, mais comme tout un ensemble d'individus, parce que Dieu connaît individuellement, Dieu te connaît individuellement. Alors il a cet amour de compassion. En voyant la foule boiteuse, malheureuse, possédée, estropiée, perdue, la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion. Ça, c'est l'amour de Dieu pour tous. Mais l'amour de compassion veut aller plus loin que la compassion et devenir un amour de communion. Parce que si Dieu a compassion du monde entier, Dieu n'est pas en communion avec le monde entier. Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Le jour où je reçois Jésus dans mon cœur, je me convertis sincèrement et je décide de marcher avec Christ. Moi, je me rappelle du 12 décembre 1971 où, devant plus de 500 personnes, j'avais 16 ans et demi, eh bien, je disais, aujourd'hui, en prenant mon baptême, je m'engage à suivre Jésus toute ma vie. Et le soir, en rentrant à la maison, j'ai repassé la vidéo, là. Et je me suis dit, « Ouah, t'as dit ça ? Qu'est-ce qui t'a permis d'affirmer comme ça devant des centaines de personnes toute ta vie ? Tu sais pas dans ta vie qu'est-ce que tu vas traverser. Je me suis dit, « T'as pas été un peu trop fort, là ?» Et puis je me suis répondu. Quelquefois, on fait des trucs comme ça, tous les deux. Et je me suis répondu, « Non, non, non. Tu as bien fait, tu as eu raison de le dire, parce que même si tu ne connais pas ce que ta vie te réserve, il y a une chose dont tu es sûr, c'est que Jésus sera toujours là pour t'accompagner, te protéger, te soutenir, te secourir, orienter tes pas, orienter tes choix, et que sa bénédiction t'accompagne jusqu'au bout. Tu as eu raison de le dire. Alléluia. Et à partir du jour où tu prends le baptême et où tu apportes cette confession de foi, l'amour de Dieu qui était un amour de compassion s'enrichit d'une autre dimension, c'est un amour de communion. C'est un amour d'approbation. Ton cœur va être en correspondance avec le cœur de Dieu. Amen. Ce ne sont plus tes réactions, tes caprices, tes envies soudaines et subites. Ce ne sont plus tes repères humains, émotionnels, tes préférences humaines qui vont gouverner ta vie, mais une communion, gloire à Dieu, hein, une bonne communion va maintenant s'établir entre ce Dieu qui t'aime et toi, son enfant qui est aimé de lui, mais qui l'aime aussi en retour. L'amour de communion, c'est cette bannière que Christ veut déployer dans ta vie. Pas que le dimanche matin, hein, mais le lundi aussi, hein, et le mardi, et de janvier à décembre, et du jour du baptême jusqu'au jour où il va te prendre dans son ciel de gloire. Christ veut déployer sur toi sa bannière, la bannière de son amour. La bannière, j'aimerais la présenter ce matin sous trois aspects. Premièrement, la bannière est un instrument d'allégeance. C'est-à-dire que je décide de m'attacher à ce que la bannière représente. Une bannière, ça peut représenter un État, ça peut représenter un royaume, un empire. Il y a des bannières qui représentent des causes, un idéal, des valeurs. Vous voyez, la Croix-Rouge, par exemple, c'est une bannière, hein. Et ça représente, eh bien, l'humanitaire, la philanthropie, ça représente tout ça, une bannière. Eh bien, je décide, en entendant l'Évangile, la foi prend naissance en moi et je décide et je choisis de faire allégeance, de m'attacher au royaume de Dieu, aux principes du royaume de Dieu, aux valeurs du royaume de Dieu et à la sagesse aussi du royaume de Dieu. C'est sûr que un homme, une femme qui fait allégeance à l'Évangile va se faire remarquer tout de suite, hein, dans sa famille. Si tu es étudiant en fac, on va te repérer tout de suite. Moi, au lycée, on m'avait surnommé le curé. Je me suis fait repérer tout de suite parce que j'avais une petite Peugeot 102 qui souffrait d'asthme chronique et de pas mal de déformations articulaires. Bon, sa roue arrière faisait comme ça. Mais je l'avais couverte d'autocollants. Vous voyez, Jésus revient. Dieu t'aime, lisez la Bible. Alors je me suis fait remarquer tout de suite, hein. J'avais mon cartable, il y avait la place pour 4 autocollants. Et ils y étaient tous là, les 4. Mais sans autocollants, sans badge, sans vignette, la transformation que Dieu va opérer dans ta vie va faire de toi une nouvelle créature. Une nouvelle création. Il va y avoir en toi quelque chose de fondamentalement changé et qui va s'exprimer. Il y a des choses qui te faisaient rire avant, qui te feront honte aujourd'hui. Et il y a des choses qui ne t'intéressaient surtout pas avant et qui vont être tes centres de passion. Mon père, il disait à tous ses collègues, « Ah, mon fils, il lit beaucoup, hein, mais il lit qu'un seul livre. » Il me voyait toujours avec ma Bible. Passionné de la Bible. Passionné du rassemblement de l'Église. Passionné du service de Dieu. Faire allégeance à la bannière de Christ, c'est embrasser de toutes nos forces les valeurs du royaume des cieux. Gloire à Dieu! Au point que l'apôtre Paul disait, au sujet de tous ces éléments de gloriole passée, tout ça, mais je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. J'ai fait allégeance à Christ. Quelque chose de merveilleux s'est produit sur ce chemin de Damas. Lorsque sa lumière a brillé et sa voix m'a interpellé, et il s'est révélé à moi et ça a changé ma vie, j'ai fait allégeance. Est-ce que tout le monde ce matin, au plan personnel, a fait le choix de faire allégeance à l'Évangile? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Ton Seigneur, ou bien est-il simplement le Seigneur de tes parents, de ton épouse? Je prie pour que ce matin, pas une personne ne reste sans avoir fait ce choix merveilleux de s'attacher à Jésus-Christ, de saisir l'Évangile de la vie éternelle et en faisant allégeance à l'Évangile, on fait aussi allégeance aux valeurs du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Tout ce qui faisait nos pôles d'intérêt jadis tombe en désuétude. Maintenant, nous concentrons et nous orientons notre vie vers les valeurs du royaume des cieux, que le Seigneur soit béni. Deuxième aspect que j'aimerais présenter s'agissant de la bannière, c'est sa relation avec la victoire. Une bannière, elle va être le support de la mémoire de certaines victoires. Moi, quand j'avais 22, 24 ans, dans ces eaux-là, parce que j'ai fait mon service militaire un petit peu sur le tard, mais ils m'ont pas raté quand même, hein, ils m'ont retrouvé. Hein. Quand j'ai fait mon service militaire, c'était à Altkirch, en Alsace, à quelques kilomètres de Mulhouse, et j'étais dans le 8e régiment des Hussards. Donc, ça remontait au temps de Napoléon Ier. Et je me souviens avoir remarqué, un jour j'ai été invité dans le bureau de mon colonel, et sur son mur, il y avait la bannière du régiment. Et sur cette bannière, il était inscrit les victoires les plus célèbres de Napoléon Ier. Alors moi, j'ai demandé à ma femme de m'écrire quelques dates. Hein. Austerlitz, 12, le 2, 12, 1805. Wagram, juillet 1809. Iéna, il y avait, sur cet étendard, il y avait la mémoire des victoires napoléoniennes. Il n'y avait pas Trafalgar. Il n'y avait pas Bérézina, encore moins Waterloo. Hein. Non, il n'y avait pas de traces des défaites, mais il y avait la mémoire des victoires. J'aimerais vous dire qu'il en est quelque part ainsi au plan spirituel dans la vie de chaque croyant. Sur ta bannière, Dieu incruste la mémoire d'une victoire majeure, définitive et permanente, la victoire de Jésus-Christ à la croix du calvaire. J'espère qu'en prenant ces emblèmes ce matin, nous avons rappelé la victoire. Oui ou non? Ou bien simplement, on dit, oh, j'ai pas eu le pain, qu'est-ce qui se passe, hein? J'espère que chaque fois que nous prenons ces emblèmes qui sont le mémorial, faites ceci en mémoire de moi, nous sommes en train de rappeler à notre âme et de le confesser fortement à l'adversaire la mémoire de la victoire de Jésus-Christ. Amen. Et la victoire de Jésus-Christ, vieille de 2000 ans, ouvre les portes pour chaque croyant, pour une vie de victoire personnelle. Jésus a vaincu, que Dieu soit béni, mais en remportant la victoire, il veut t'entraîner dans la victoire. Amen. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui est à ce point découragé, las et maintenant comme défaitiste, parce que vis-à-vis d'un élément négatif de sa vie personnelle, il n'est pas arrivé à remporter la victoire? Eh bien, Dieu veut écrire sur ton étendard la victoire. Tu peux intérieurement, bien sûr, nommer la nature de ton combat. Peut-être est-ce un combat que tu mènes sur une inclination de ton caractère, une facilité à t'angoisser, à te mettre en colère, à craindre matériellement pour l'avenir, que sais-je encore. Eh bien, Jésus veut déployer sur toi la bannière de son amour. Et en contemplant sa bannière, tu vas rappeler à ta mémoire sa victoire. Parce que sur sa bannière, il est écrit Golgotha. Victoire majeure, parfaite, victoire pour tous, victoire pour toutes circonstances, victoire sur la maladie, les événements visibles comme les combats intérieurs invisibles. Sur ta bannière, il y a Golgotha. Jésus a vaincu. Amen. Et comme le prêchait un pasteur, et j'ai tellement aimé cette phrase, nous, chrétiens, nous ne devons pas combattre pour la victoire, mais nous devons combattre dans la victoire. Parce que la victoire, Christ l'a remportée déjà. Est-ce qu'on peut dire un grand amen ? Amen. Il a vaincu parfaitement et pas même l'adversaire ne peut le contester. Que le Seigneur soit béni. L'étendard de sa victoire repart ce matin vainqueur. Dans toutes ces choses, écrit Paul aux Romains, dans toutes ces choses, la famine, la persécution, l'épée, la nudité, le péril, toutes les formes d'épreuves, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Pas par nos ressources propres, mais par celui qui nous a aimés, Golgotha. La victoire de Golgotha engendre dans ta vie toutes les victoires dont tu as besoin le long de ta marche. Amen. Oh là là, moi, il est solide le faux plafond, je vais m'envoler. Hein. Que Dieu soit béni et qu'il ne permette à personne de repartir de ce lieu, le dos courbé, les épaules accablées de fardeaux. Mais non, Christ veut déployer sur toi sa bannière, la bannière de son amour. Il y est écrit « Golgotha ». J'ai vaincu pour toi et je t'entraîne dans ma victoire. Que le Seigneur soit béni. J'ai été malheureux de constater parfois des bien-aimés sincères avoir du mal à se défaire de la cigarette ou d'autres addictions, n'est-ce pas? Ils ont essayé par toutes sortes de moyens, manger des bonbons, ça a fait grossir, enfin bon. Un mardi soir, une réunion apparemment comme toutes les autres. Un couple très fidèle, lui baptisé depuis plus de 10 ans, ils viennent, ils repartent. Le lendemain, le surlendemain, le troisième jour, sa femme lui dit, « Dis André, t'as rien remarqué ?»« Mais quoi ?» Depuis mardi soir, tu n'as pas touché ton paquet de cigarettes. Dieu l'avait désintoxiqué en douceur. Sans bonbons, sans bracelet à ondes bizarres, rien de spécial. La victoire de Jésus est devenue, spontanément et facilement sa victoire personnelle. Alors que ce matin, quelqu'un entre dans la victoire accomplie par le Seigneur Jésus. Sois vainqueur ce matin et ne considère plus ton problème comme un bras de fer que tu dois livrer. Bénis le Seigneur qui te rend plus que vainqueur, car la victoire, il l'a signée lui-même de son propre sang. Le troisième et dernier aspect dans lequel j'aimerais vous parler de la bannière, c'est que la bannière était un instrument très très important pour régir la vie du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, après le franchissement de la mer Rouge, va se trouver face à une longue marche, une pérégrination, ponctuée par des séquences stationnaires et par des séquences dynamiques de mouvement. Et Dieu a explicitement commandé de quelle manière le peuple d'Israël devait se structurer avec ordre et harmonie. La Bible nous dit, les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères, ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. À l'occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. C'est comme cela que Dieu avait ordonné les choses dans les périodes stationnaires. Au milieu, c'était la tente d'assignation. Et en partant de l'est, le midi, l'ouest et le nord, dans le sens des aiguilles d'une montre, Dieu avait fixé l'implantation d'une bannière, et c'est autour de la bannière qu'on devait poser son campement. Et ça, voyez-vous, mes amis, ça offrait, au regard de toutes les nations païennes environnantes, un témoignage extraordinaire. Le peuple de Dieu était configuré d'une manière ordonnée. Amen. Et ça, c'est possible même pour les Gaulois. Hein. D'une manière structurée, harmonieuse. Et pour les phases de mouvement, lorsque la nuée commençait à s'élever, oh, tout le monde comprenait qu'il fallait se préparer à bouger, eh bien, lorsque le peuple partit du Sinaï, par exemple, la bannière du camp des fils de Juda, à l'est, partit la première, avec ses corps d'armée. La bannière du camp de Ruben, au sud, partit avec ses corps d'armée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm, à l'ouest, partit avec ses corps d'armée. La bannière du camp des fils de Dan, partit avec ses corps d'armée. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur propre corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. C'est ainsi, et pas autrement, c'est ainsi qu'ils partirent. Et la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est l'harmonie. Amen. C'est l'harmonie. C'est l'ordre, mais dans le sens beau et aussi efficace. C'est l'ordre. C'est l'harmonie. Le péché a mis beaucoup de désordre. On est d'accord? Le péché a bouleversé la belle harmonie du Créateur. Le péché a bouleversé, premièrement, le psychisme de l'homme. Il a eu des sentiments qu'il ne connaissait pas. La honte, la peur, le désir de se cacher. Donc, la roublardise, voyez, la tortuosité. C'est ainsi que la Bible dit que le cœur de l'homme est devenu comme cela. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout et il est tortueux. Le péché a mis tout sens dessus-dessous, ça a bouleversé et ça met le chaos. Et mes amis, le chaos que l'on constate à l'extérieur n'est que la conséquence du chaos intérieur. C'est parce que c'est à l'intérieur que ça va pas. Et l'homme restitue et il exprime, extériorise le chaos. Et c'est ainsi qu'on a une société qui est à un pas de la banqueroute et de la ruine. Le péché met du désordre. Le péché met du désordre dans les couples. Dans les couples. Le péché met du désordre dans les cellules familiales. Combien de parents aujourd'hui ont depuis longtemps renoncé à assumer leur belle mission d'éducation de leurs enfants. C'est une belle mission, construire les enfants que Dieu nous donne. Mais combien ont baissé les bras? Combien de familles sont en état de ruine, de guerre, de conflit, de controverse? Le péché met du désordre. Dans les grandes institutions de la société, ne serait-ce qu'en France, moi je ne veux pas de, je veux pas faire, comme je ne veux pas tremper dans des commentaires politiques, mais simplement une observation factuelle des choses. La société française qui était réputée comme étant en avance, etc., mais ces grands piliers sont en train de craquer, de s'effondrer. Le milieu hospitalier, l'éducation nationale, la sécurité, et tant de domaines forts qui constituent la société sont en train de partir en banqueroute, n'est-ce pas? Mais c'est le péché. Mais Dieu, lui, ne renonce pas. Il brandit sa bannière. Amen. Il fait flotter l'étendard de l'Évangile. Gloire à Dieu. Et comme je vous le disais tout à l'heure dans mon introduction, il est de la plus grande urgence que l'on puisse dire à nos contemporains que l'espérance est possible, que la solution existe, et que la première sagesse, c'est de revenir vers le Dieu auquel on a tourné le dos. Et ainsi, la bannière va apporter de l'harmonie, de l'ordre. Je terminerai sur ce dernier aspect. Je parlais tout à l'heure du domaine de nos affections, de nos sentiments. Dieu veut mettre de l'ordre dans tes sentiments. Amen. Dieu veut apaiser tes émotions exacerbées. Dieu veut rassurer tes craintes. Dieu veut mettre de l'harmonie en toi. Parce que si elle règne en toi, elle va se communiquer autour de toi. Ce que Dieu veut, c'est ta stabilité. Que tu sois une personne dont la paix résistera à tous les séismes. Dont l'espérance restera intacte malgré les secousses les plus violentes. Et Dieu veut influer sur ma vie affective. Sa bannière qui me couvre me parle de l'influence, de la gouvernance de Christ sur mes émotions. La Bible nous parle du cœur de l'homme. Elle nous parle du cœur troublé. Quelqu'un a-t-il son cœur troublé ? La Bible me parle du cœur agité. Quelqu'un a-t-il du mal à trouver le sommeil? À tel point son cœur est agité? Moi, j'ai fait une grosse construction avec le concours de dizaines de frères. Monsieur Guerrero est un petit peu au courant sur Nîmes. On a fait une grosse construction. Et par la grâce de Dieu, vraiment, par la grâce de Dieu, on a abouti. Et un collègue, à un moment donné, me disait, Jean-Marc, tu dors bien? Et je lui ai donné ce témoignage, mais en toute objectivité, je lui ai dit, écoute Didier, par la grâce de Dieu, je dors très bien. Mais c'est un miracle, parce que je ne vous dis pas la complexité, mais aussi l'amplitude de ce chantier, mais miracle, c'est le miracle de Dieu ça. Je vous donne ma paix, a dit Jésus. Elle est précieuse, la paix de Dieu, dans ton cœur. Et si elle t'a fui, Dieu veut la renouveler en toi. Il veut gouverner tes émotions. Peut-être dans ton cœur s'est-il infiltré de l'amertume. De l'amertume. Que c'est terrible. C'est comme un poison qui infecte tout, qui m'empêche d'être heureux, d'être joyeux, d'être bien. Alléluia! Que c'est terrible l'amertume. Bien, Christ veut déployer sa bannière, son amour, et il veut gouverner sur tes sentiments. Et pourquoi ce matin tu ne lui présenterais pas ton cœur en lui disant, tu vois l'état de mon cœur, Seigneur, j'aimerais plus te glorifier, j'aimerais mieux te servir, j'aimerais être un chrétien meilleur à ta ressemblance, mais tu vois les réalités intérieures, s'il te plaît, déploie sur moi ta bannière et que ton influence bénissante se déverse dans notre cœur. La Bible nous dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je suis bien conscient, mes bien-aimés, qu'une prédication ne suffit pas s'il n'y a pas l'assistance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. Parce que l'agent divin exécutif des plans de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Laisse-toi visiter ce matin par le Saint-Esprit. Ouvre-lui ton cœur. Réclame avec une soif renouvelée, Seigneur, un nouveau baptême dans le Saint-Esprit. Une nouvelle onction sur ma personne, Seigneur. Une visitation particulière dans ma vie. Et le Seigneur va combler les attentes de ses enfants. Laisse le Saint-Esprit te visiter ce matin. Et laisse Christ déployer son amour sur ta vie. Repars vainqueur, renouvelé, rassuré, calmé, que l'harmonie divine règne en toi et qu'ensemble nous puissions continuer victorieusement le chemin. Je termine ici, frères et sœurs, et par un bref moment de prière, on va faire